Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Alors aujourd'hui, dans l'interview du jour, je reçois Sophie Morel, relectrice, correctrice. Alors on va découvrir bien sûr avec elle ce qu'est ce métier. Mais tout d'abord, bonjour Sophie.
Bonjour Aurélie.
Donc vous êtes relectrice, correctrice. Donc j'imagine que ça parle de français, ça.
Voilà, tout à fait. C'est un métier à part entière qui consiste à recevoir des textes à lire et à découvrir leurs fautes de français et puis à faire de la relecture. Donc je peux expliquer en détail en quoi ça consiste exactement.
Nous sommes toutes oui.
Alors je vais d'abord me présenter un petit peu. Donc Sophie Morel, j'ai un parcours professionnel long et divers. C'est-à-dire que j'ai commencé par des études de lettres classiques à la Sorbonne à Paris, ce qui m'a permis de travailler dans l'éducation nationale pendant plus de 20 ans avec des postes divers et variés comme souvent. J'ai été surveillante, j'ai enseigné avec des postes dans différents collèges et lycées, cela pendant quelques années. Ensuite, j'ai choisi d'être conseillère d'éducation, donc dans la vie scolaire. Ensuite, je suis partie et me voici donc dans le DIWA, où j'ai aussi exercé plusieurs métiers. D'abord l'agriculture et puis ensuite j'ai conduit des cars. Et ce métier faisant très mal au dos, j'ai fini par choisir de revenir à mes chères lettres.
Vous êtes revenu à vos premières amours, comme on dit.
Exactement.
Hein.
Ouais. Donc j'ai fait une formation pendant 2 ans par correspondance auprès du Centre d'écriture et de communication qui se trouve à Paris et qui mène donc au métier de correcteur. Puis j'ai aussi suivi la deuxième année qui est alors une formation plus spécifique en réécriture de texte.
Donc la première année, elle vous permet quoi ?
La première année, une remise à niveau pour tout ce qui concerne l'orthographe, les difficultés du français. On apprend toute la partie orthotypographique qui consiste en fait à voir dans les textes tout ce qui est susceptible d'être corrigé en vue des publications. C'est-à-dire que toutes les notions de ponctuation, d'espace entre les mots, de retour à la ligne, de paragraphe, les titres aussi pour ce qui concerne les journaux, ce qu'on appelle aussi les angles, c'est-à-dire la façon dont on peut voir un texte.
Aborder le texte.
Oui, aborder le texte, puisqu'un auteur peut être perçu de différentes façons. Donc, on apprend tout cela. Et aussi la réécriture du roman. Alors ça, on l'apprend en première année et aussi en deuxième année. Donc, j'ai été amenée à faire beaucoup d'exercices. Surtout les verbes, les noms, l'orthographe, toute la grammaire française, quoi. Et puis à écrire des petits textes ou des gros textes, faire par exemple un portrait. Alors on nous demandait de choisir un personnage, par exemple une personne politique ou dans le cinéma. Donc moi j'avais choisi de faire le portrait d'Agnès Varda parce qu'elle avait eu un prix à Marseille de photo, médaille du mérite même. Et donc j'avais écrit ce portrait, ça m'avait passionné de rechercher tout ce qu'elle avait pu dans sa carrière faire comme film. On la connaît plutôt comme cinéaste, mais elle a aussi une carrière de photographe. J'avais choisi donc là l'angle photographe d'Agnès Varda. Et je l'avais suivi dans les rues de Marseille à faire des photos et c'était passionnant.
Et pour le coup, là, ça se réfère un peu au métier de journaliste ?
Oui, mais c'était vraiment l'écriture d'un portrait complet avec un début, une fin, une progression. agression, et, voilà, qui aurait effectivement pu paraître dans un journal.
Donc on salue Agnès Varda. 2 années de formation hein, qui vous amènent, pour le coup, aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes relectrice, correctrice. Donc c'est un métier, comme vous l'avez expliqué, mais un petit peu plus dans le détail. Voilà, un auteur écrit quelque chose, alors un texte, un livre. Que fait-il de son manuscrit ?
Donc, l'auteur l'envoie en général à une maison d'édition. Et dans ces maisons d'édition, il est relu d'abord par un préparateur de copie. Alors, la préparation de copie consiste à voir dans le texte tout ce qui saute aux yeux, on va dire. Alors, il y a des passages, par exemple, que l'auteur n'a pas forcément toujours bien exprimés. Et on appelle ça des amphibologies, pour employer le terme savant. Pour que ce soit compris, on peut réécrire certaines phrases dans un autre sens pour une lecture lumineuse dans le texte lui-même, tout ce qui saute aux yeux, des petites fautes de grammaire, tout ça, ce qui peut être mis à la ligne, si on peut changer de paragraphe, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce manuscrit, d'abord, on le soumet de nouveau à l'auteur parce qu'il faut qu'il soit d'accord pour ce qui est proposé. Il peut l'être ou non, d'ailleurs. Et il passe ensuite aux correcteurs eux-mêmes qui font toutes les... dans la marge, à ce moment-là, et pas dans le texte, il y a des signes de correction qui sont les mêmes pour tous. Et donc ça se fait à la main. Alors, je parlerai peut-être tout à l'heure de la correction sur écran, puisque maintenant, on en est là. Mais c'est beaucoup plus simple quand on tire, et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a toujours conseillé à ma formation, d'imprimer toutes les pages et de faire les corrections à la main, à droite, en rouge.
Comme à l'école.
Comme à l'école, voilà. Et pour toutes les petites incorrections qui ne doivent plus apparaître dans le livre. Il y a en général plusieurs correcteurs, au moins 2, après la préparation de copie. J'ai fait un stage... peut-être je peux en parler un petit peu.
C'est l'occasion.
Voilà. Donc, j'ai eu la chance de passer une semaine à la maison Gallimard, qui est une des grosses boîtes d'édition, maison familiale s'il en est, qui d'ailleurs, au passage, si vous ne le savez pas, a racheté Flammarion. Donc, c'est une maison d'édition énorme qui, on dit une maison d'édition, mais en fait, elle comporte plein de petites maisons d'édition. Par exemple, les livres d'art, ou la jeunesse, ou tous les folios, ce qu'on appelle maintenant la Blanche, qui en fait était l'origine de Gallimard, c'est-à-dire la NRF. Donc j'ai fait un stage dans cette maison d'édition pour comprendre le parcours d'un livre. J'ai bien sûr eu la chance de passer un moment auprès des correcteurs, des chefs correcteurs, et donc j'ai découvert que dans la... maison mère, comme on dit elle-même, il y a simplement quelques personnes qui sont là pour écrire les quatrièmes de couverture et dispatcher les manuscrits auprès des préparateurs de copies et ensuite des correcteurs.
D'accord. Et selon quels critères ils les dispatchent ?
Alors après, oui, il y a d'abord, on reçoit les manuscrits chez Gallimard, il y a tout un pôle, un comité de lecture, bien sûr, où on choisit d'accepter le manuscrit ou non. C'est parti pour que le livre soit publié,
okay.
Donc, par plusieurs étapes. Et puis, plus humblement, je dirais, j'ai demandé à faire un stage au journal du Diwa. Et j'y ai passé 15 jours où j'ai beaucoup travaillé. Et sur 2 semaines, voilà, donc ça fait 2 stages de... concret.
2 stages de terrain, donc. Alors, ce livre, voilà, il arrive chez le préparateur de copie. Non, d'abord le comité. Qui accepte ou pas, il est accepté. Mm-mm. Il va chez le préparateur de copie, qui le envoie à 2 correcteurs.
Ouais, plusieurs. Ouais.
Au moins 2. Minimum 2. Et bang, on le publie parce que tout est OK.
Voilà.
Le photographe a mis ses petites illustrations. Ouais,
oui.
Voilà. Et donc, vous, votre travail, voilà, c'est ça, vous êtes relectrice-correctrice. Par contre, vous avez fait le choix de travailler toute seule,
oui,
à la maison.
Voilà, travail à domicile.
Voilà.
Alors, en fait, lorsque j'ai fait ma formation là, sur 2 ans, c'est le conseil que nous a donné Jacques Decourt, responsable de cette formation, parce qu'effectivement, vu la crise, n'est-ce pas, c'est difficile maintenant de trouver des postes fixes dans des maisons d'audition ou dans la presse. C'est pour cela que je me lance dans l'auto-entrepreneuriat. J'ai d'ailleurs déjà un petit peu exercé, puisque j'ai des amis qui écrivent et qui m'ont fait confiance. Et par exemple, j'ai pu corriger un conte musical qui, pour un ami parisien, qui s'appelle, je vais faire sa pub en même
Allez,
temps.
Allez, on voilà. le cite, on est là pour ça aussi.
Qui s'appelle donc Justus, l'histoire d'un petit luthier qui reçoit la visite, oui, d'un petit verre dans un violoncelle qu'il est en train de fabriquer. C'était très amusant et voilà, donc c'est un conte de 16 pages et j'ai su récemment que cet ouvrage va être publié.
D'accord.
C'est-à-dire, mon ami l'a présenté au Salon du Livre et là, avec les illustrations, il va être publié bientôt.
Et quel est le nom de cet ami ?
Alors, il s'appelle Frédéric Borsarello, il est violoncelliste en région parisienne. Il compose maintenant et il écrit aussi des contes musicaux pour enfants.
Super, ben bonjour Frédéric. Hein. Merci d'avoir donné sa chance à Sophie. Donc ben là, pour le coup, une carte conte, effectivement, conte voilà. pour enfants, mais pas que. Dans quel domaine vous pouvez exercer ?
Eh bien, moi, ce que j'aimerais beaucoup, je vais parler d'un idéal, on va dire, ce serait de pouvoir effectivement faire des corrections pour les personnes qui écrivent. Donc, je suis en ce moment en train d'essayer de monter un peu un réseau, on va dire, de rencontrer des écrivains ou bien je cherche aussi des personnes qui connaissent, disons, ce milieu. Voilà. Je sais que dans le Diwa, il y a beaucoup d'écrivains cachés et j'aimerais pouvoir faire connaissance avec eux, voir comment ils travaillent, éventuellement peut-être auraient-ils besoin de mes services et ce serait me lancer vers ce métier que j'ai choisi parce que l'écriture a toujours été mon point fort. Mais sinon, j'écris déjà un peu moi-même.
Vous écrivez aussi personnellement.
Mais bon, peut-être un jour, ça aboutira à un livre. Hein, que je... Pourquoi pas ? Mais j'écris au moins 2 petits articles pour le JDD. Et puis, je fais aussi des corrections pour certaines associations, pour une amie traductrice d'allemand. J'aime que les choses soient connues. Par exemple, je fais partie de l'association des Amis de l'Orgue et je fais publier souvent des petits articles dans le JDD, toujours. Mmh. Et ça passe aussi dans le Dauphiné. Voilà.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a une certaine qualité.
Oui,
ouais, on peut le dire. En tout cas, pour évoquer les auteurs cachés que vous avez stipulés tout à l'heure, moi, j'ai envie de dire qu'ils sont restés cachés parce qu'ils n'ont pas rencontré la relectrice-correctrice que vous êtes.
Peut-être.
Je suis sûre que ça leur donnerait un élan. Mm-hmm. Et vos écritures, pour le coup, est-ce que là, vous les feriez relire et corriger ?
Ah, ou sûrement.
Ouais.
Sûrement, parce que on est obligé de passer par... pour que ce soit publié dans une maison d'édition, il faut de toute façon qu'il y ait un correcteur qui relise. Donc... Oui.
Est-ce qu'il arrive qu'une maison d'édition fasse appel à des relecteurs, correcteurs indépendants ?
Alors, c'est la grande question. Je ne peux pas répondre pour le moment. Les maisons d'édition ont leurs correcteurs et le syndicat des correcteurs. J'ai rencontré une dame qui est dans ce syndicat et bien sûr, ils défendent le salariat, ce qui est tout à fait... normal. Donc, je ne sais pas.
Si l'auto-entrepreneuriat, celui que vous venez de mettre en place, ne prenait pas, est-ce que vous vous dirigeriez vers une maison d'édition ?
Et si quelqu'un veut bien m'employer, je ne demande que ça.
Ouais, ouais. Vous envoyez des CV peut-être ?
Oui, oui, bien sûr que j'envoie des CV à droite à gauche. Il y a plusieurs petites maisons d'édition aussi dans le sud. Elles sont surtout sur Paris, mais il en existe des... On ne les connaît pas toutes d'ailleurs. Hein. Il y en a une à Grane qui s'appelle Créafis. J'ai appris en fait qu'il y avait une tradition éditoriale à Die du temps d'André Pitte. Donc le fond a été repris par cette maison à Grane. C'est aussi une piste à exploiter. Il y a aussi Olivetan à Lyon. Qui, voilà, surtout ne pas rêver sur Actes Sud, qui est la grande maison d'édition du Sud-Est et qui n'a pas de poste, même si on connaît quelqu'un ou par où y dire. Bon, mais pourquoi pas, parce que les correcteurs, en fait, sont des personnes qui n'exercent pas cette profession forcément toute leur vie. Il y en a qui arrivent, qui repartent, qui font autre chose, ou bien qui comme moi, ont fait beaucoup de choses avant et puis qui deviennent correcteurs. Donc moi, j'ai toujours un espoir. Il y a aussi des maisons d'édition à Grenoble, en particulier Nivéal. Je ne sais pas si Erdiwa va jusque-là.
Oh ben, certains programmes sont repris de Grenoble, hein, d'Erdiwa. Donc, si, si.
Alors c'est parfait, donc je m'adresse directement à Pascal Malter, à qui j'ai envoyé un CV, et il m'avait laissé entendre que ponctuellement il pourrait m'embaucher. C'est une énorme boîte en fait, qui publie les magazines de montagne et grands reportages aussi.
Pascal Malter, si vous êtes à l'écoute, hein, n'hésitez pas, ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte aujourd'hui, hein, d'employer Sophie Morel. Je suis sûre qu'elle a toutes les qualités requises. Alors justement, un lecteur correcteur, quelles sont les qualités indispensables dont il doit être pourvu ?
Alors, d'être très précis, d'avoir une vue très acuite, beaucoup d'acuité dans la vue.
Une très bonne acuité visuelle.
Voilà. Et puis de faire des pauses. En fait, c'est ce que j'étais allée à deux réunions l'année dernière pendant le cadre de ma formation. Et c'est ce que Jacques Decour avait mis en avant. C'était la principale qualité d'un correcteur. C'est-à-dire que lui, il racontait que quand il était correcteur pour Bordas ou d'autres maisons, il travaillait maximum 2 heures et il faisait une pause. Il retravaillait 2 heures, il faisait une pause de 5 heures et il reprenait son travail seulement à 17 heures, de 17 heures à 19 heures. C'est impossible de travailler plus de 2 heures sur un texte.
Ouais. L'esprit s'embrouille en fait.
Voilà, parce que c'est, le cerveau, il a ses limites, donc on ne voit plus rien si on le fait trop longtemps. C'est une des qualités qu'il faut avoir, c'est-à-dire s'observer, voir ses limites et s'arrêter à temps pour pouvoir reposer le cerveau et reprendre ensuite. Enfin, je pense que c'est aussi pour tout le monde. Tous les travaux écrits et puis aussi quand on écoute, on peut pas. Il paraît qu'on a une écoute qui ne dépasse pas 20 minutes en cours magistral, par exemple.
Est-ce que Sophie, vous pensez qu'on a fait le tour là ?
Oui, je voudrais juste ajouter que je me suis orientée aussi grâce à une correctrice qui habite à Cray, avec qui j'ai parlé, qui s'appelle Constance Chaumin. Je pense pas qu'elle m'en veuille de citer son nom à la radio, parce que c'est quelqu'un de qualité qui m'a conseillé de m'adresser aussi à une entreprise qui fait du sous-titrage. Donc j'ai envoyé mon CV, etc. Enfin, il se trouve à Vanves, mais c'est toujours du travail à domicile. Et moi, quand je vais au cinéma ou à l'opéra, je remarque évidemment toujours les petites fautes qui restent et je me dis c'est dommage, ou bien le découpage n'est pas toujours bien fait à l'opéra de, par exemple, j'ai assisté à des représentations à Lyon ou à Saint-Étienne, et quand on regarde les sous-titres des opéras, je trouve ça terrible que le texte ne suive pas forcément le chant.
Oui, donc respecter au mieux les paroles d'origine, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de traductions de sous-titrage, effectivement, qui sont un peu aberrants.
Je me souviens de cet opéra à Lyon de Mozart, où on était déjà à la scène suivante, alors que la traduction apparaissait de la scène d'avant.
Ouais.
Donc on se dit, on comprenait, parce que les gens ils connaissent l'opéra, mais c'est dommage.
Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Et puis pour le coup, ça enlève la crédibilité à tout le travail qui a été fait en amont et c'est dommage.
Exactement.
Ouais, ouais.
Exactement.
Complètement. Donc voilà, Sophie Morel, auto-entreprise hein, de relecture-correction. Donc Sophie Morel, relectrice-correctrice de son état avec sa nouvelle auto-entreprise Tectrice. Donc vous pouvez la joindre par deux moyens, hein, par téléphone, autant pour moi, au 06 28 28 66 99 ou bien par mail. Sophie Bianchi, Bianquis, @gmail.com. Donc vous retrouverez bien sûr ses contacts sur la page de l'interview concernée. Peut-être Sophie Morel, je vous laisse le mot de la fin.
Merci. Eh bien, merci Aurélie pour ce moment et à bientôt à tous. Au revoir.
À bientôt Sophie. Alors chers auditeurs, vous pourrez retrouver cette interview sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique du même nom. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'interview du jour. Bye bye.
Interview. 1 Terre.
Hey, the bird.